Alors bonsoir, bonsoir les internautes et les internautes. Nous sommes toujours en mode à distance, puisque cela fait à peu près un an que nous avons initié ces conférences à l'Institut d'astrophysique. C'était au mois d'avril 2020. Nous sommes aujourd'hui à la 13e conférence à distance avec Hervé Le Trott. Tant que le virus nous y obligera, eh bien nous continuerons ce mode, voilà, avec ses avantages et ses inconvénients. Mais le plaisir est toujours partagé, puisque vous êtes toujours très nombreux à nous rejoindre, et donc bienvenue. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir très particulier d'accueillir Hervé Le Trott. Dernière fois que nous sommes vus, c'était à Ivry-sur-Seine, ça fait à peu près une vingtaine d'années, pour une conférence qui concernait déjà le problème du réchauffement climatique. Hervé Le Trott est climatologue. Il m'a dit que préférerait peut-être qu'on le définisse comme physicien du climat. En tout cas, il enseigne à Sorbonne Université, il est professeur à l'École Polytechnique et il a l'honneur d'être membre de l'Académie des sciences. Alors, bien entendu, de par son activité, il participe à prendre le pouls de la Terre, du climat, et évaluer les enjeux pour les années et les décennies à venir. C'est en cela que nous sentons extrêmement concernés. L'occurrence de la pandémie et celle de nouveaux virus fait partie de sa réflexion, de la réflexion qui est menée dans ce domaine-là. Peut-être qu'il nous en touchera un mot, je ne sais pas. Ce sera peut-être une surprise. En tout cas, pour mieux le cerner, disons que Hervé a été membre du GIEC. Il a participé à ce titre à la modélisation du climat à l'échelle planétaire. Mais depuis 10 ans, il s'est posé les questions d'une autre manière et il s'intéresse aussi à son évolution à l'échelle locale. Et pour cela, depuis une dizaine d'années, il a mis en place une association qui s'appelle Acclimatera, d'ailleurs qui figure dans le titre de son intervention. Je pense qu'il va nous en donner un peu plus de détails tout à l'heure. Et cette association, qui œuvre dans le sud-ouest de la France, et a des enjeux et des buts qui concernent le devenir de cette région face aux changements brutaux que peut révéler le climat à certains moments dans les années à venir. En tout cas, il donne de nombreuses conférences. J'en ai cité une, mais enfin, il y en a beaucoup d'autres. Et il publie également des livres. J'ai un petit peu regardé autour de moi. Je me suis aperçu que dans ma bibliothèque, il y en avait un qui a été écrit avec Jean Jouzel et Didier Augustin. Je ne sais pas si Hervé s'en souvient. J'espère que oui. Et qui s'intitule Climat, chronique d'un bouleversement. C'était chronique d'un bouleversement annoncé. C'était édité aux éditions du Pommier. Un livre plus récent dont il m'a parlé, que je n'ai pas lu, mais que je recommande, s'appelle Nouveau climat sur la Terre, édité chez Flammarion 2009. Et me dit-il, me dit Hervé, c'est qu'il reste toujours d'actualité. Voilà. Je crois l'avoir présenté, Hervé. Et donc, maintenant, je vous laisse la parole. Merci.
Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être même virtuellement ici à l'IAP. Donc, j'ai déjà donné un exposé sur des thèmes similaires il y a déjà peut-être une dizaine d'années, quelque chose comme ça. Et ce que je vais essayer de montrer, c'est que les choses ont évolué, continué d'évoluer, c'est-à-dire qu'il y a des enjeux qui sont les mêmes, qui sont malheureusement restés les mêmes, mais aussi des enjeux qui se détachent maintenant de manière un petit peu différente de ce qu'ils étaient il y a quelques temps. Alors, juste pour dire un peu ce que sera la démarche de cet exposé, je vais parler d'abord de ce qui a été mon métier pendant beaucoup d'années, c'est-à-dire le climat global de la planète. Et puis, je passerai effectivement de ce climat global à un climat plus régional, une vision plus régionale de ces enjeux. Et la raison d'être, ce sera de montrer qu'effectivement, l'échelle globale est une échelle qui n'offre pas toujours de solution à ces problèmes-là. Et je reviendrai donc sur cette vision un petit peu plus un peu différente dans la deuxième partie de l'exposé. Voilà, alors j'ai mis aussi quelques logos. Il y a l'Institut Pierre-Simon Laplace, donc l'École Polytechnique et Sorbonne Université, c'est les gens qui me financent essentiellement. Et puis Aclimatera, c'est une association dont je parlerai tout à l'heure, effectivement, qui était mise en place beaucoup à la demande de la région Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine maintenant, et dans laquelle on a fait ce travail qui a déjà été mentionné tout à l'heure. Voilà, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par un certain nombre de données observées. Donc c'est un choix que j'ai fait petit à petit parce que, effectivement, quand on cherche à convaincre les gens de la réalité d'un problème qui évolue rapidement, c'est toujours plus facile de le faire au travers d'observations qu'au travers de modèles et de résultats de modèles. Alors, je sais que je suis face à des scientifiques, je répondrai à des questions sur les modèles très volontiers après l'exposé, mais je vais assez peu parler de modélisation, même si ça a été quand même la base de mon travail à une certaine époque. Parce que je voudrais essentiellement faire taire un certain nombre de choses qui sont mal comprises et qui sont en fait du fait mal enseignées. Alors, la première chose, c'est effectivement les émissions de gaz à effet de serre, leur croissance, sont à l'origine de ce dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire le changement climatique, l'évolution du changement climatique. Et bon, j'ai pris ce diagramme qui est un tout petit peu ancien, parce que mais qui, par ailleurs, il a été changé par le Covid, mais donne quand même la progression des émissions de gaz à effet de serre sur une période assez longue qui commence en 1960. Et alors, quand je dis les gaz à effet de serre, il s'agit du CO2 et il s'agit ici d'unités qui sont en gigatonnes de CO2, donc en milliards de tonnes de CO2. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que la croissance de cette courbe, elle est continue pratiquement. C'est une courbe que beaucoup de gens prennent pour une courbe de cumul, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'effectivement, on voit ici la manière dont le CO2 se cumule dans l'atmosphère. En fait, c'est bien une courbe qui montre ce qui est émis à chaque moment, c'est-à-dire on a 10 milliards de tonnes de carbone, de CO2, pardon, émis dans les années 60, on en a presque 4 milliards dans les années 2020. Donc on est face à quelque chose qui augmente de manière très rapide, mais ce n'est pas un cumul, c'est effectivement qu'on émet de plus en plus de gaz à effet de serre. Alors ça joue un rôle majeur sur lequel on va revenir quand on essaie de comprendre ce que ça veut dire ensuite, par exemple, la neutralité carbone. On n'est pas du tout dans une situation aujourd'hui on diminue les émissions de gaz à effet de serre. Les émissions de gaz à effet de serre continuent de croître fortement, et je pense que c'est quelque chose qui est là aussi souvent mal compris. Ça veut dire qu'on ne soit pas se débarrasser d'un problème comme celui-ci de manière rapide, d'autant plus, j'y reviendrai, que les gaz à effet de serre, tous les gaz à effet de serre en fait qui sont réellement actifs, qu'on appelle les gaz à effet de serre de longue durée de vie, sont des gaz qui vont se stocker donc, pendant des périodes qui sont de l'ordre une demi-vie du siècle pour le CO2, et qui sont pour le plus rapide à changer, à avoir une chimie, qui est la chimie la plus rapide, le méthane, c'est quand même un gaz qui reste dans l'atmosphère pendant une dizaine d'années. Donc en fait, on est face à des gaz qui vont être là pour longtemps, et on a une situation qui n'est pas facilement réversible, et c'est quelque chose qui est souvent mal compris. Alors, il y a des conséquences pour cela, qui sont aussi des conséquences que l'on peut mesurer par des faits, alors qu'ils sont des faits un peu différents, ce sont ceux qui sont liés au commerce du carbone. Vous avez ici la part des différents gaz à effet de serre. On est toujours sur la même période, hein, c'est quelque chose qui vient du Global Carbon Project, et j'ai gardé un peu la même séquence. Il y a eu un rapport un petit peu plus récent, mais les diagrammes me paraissent jolis, ceux-là. Vous avez ici alors je vais le montrer avec la flèche. J'espère qu'elle apparaît. Si vous pouvez. Donc, ce que vous voyez ici, c'est les émissions par pays. Donc, la part de la France est une part qui est petite. Et ce que je montrerai tout à l'heure, c'est que la part de les gaz à effet de serre qui restent longtemps dans la atmosphère sont des gaz qui se mélangent. Je montrerai une vidéo tout à l'heure qui montre ce mélange qui se fait de manière très, très rapide à l'échelle d'une année et qui fait que ce que l'on voit, ce qu'on a au-dessus de nos têtes, ce sont des gaz qui viennent d'un petit peu partout. Donc le problème, la problématique, effectivement, qui peut-être rappeler celle du Covid, avec des gels de temps qui sont très différentes, c'est celle de quelque chose qui se décline à l'échelle mondiale avant tout. On a au-dessus de nos têtes des gaz qui viennent un peu partout et qui sont de manière minoritaire des gaz émis par la France, par les usines françaises, ou par les activités françaises. Donc c'est quelque chose qui est assez important à réaliser parce que il définira un petit peu les marges d'action dont on dispose par rapport à ces problématiques. Vous avez aussi, quand on regarde ces gaz à effet de serre, une réalité qui est importante, c'est que ce sont les gaz qui servent le plus fortement à définir nos ressources énergétiques actuelles. Donc vous avez ici un diagramme, qui est aussi un diagramme qui vient de la même série un petit peu, et qui est un diagramme qui vous montre le charbon, le pétrole, le gaz naturel représente à peu près 80% de l'énergie qui est fabriquée. Et on a comme autre source d'énergie, une énergie un petit peu différente, tout ce qui est lié à la végétation, à land use, qui est aussi une part très importante au niveau de la déforestation, mais qui est quand même mineure en termes de volume par rapport à ce qui relève des gaz à effet de serre. Donc on est face à des émissions de gaz à effet de serre qui montrent, un diagramme qui montre l'importance en fait de ces gaz en termes d'émissions. Là on est par rapport à des émissions de CO2. Alors ces émissions de CO2 ou d'autres gaz sont des émissions qui ont suivi des trajectoires qui sont à mettre dans un contexte qui est là aussi un peu particulier, qui a beaucoup changé pendant les années de, disons, dans les années 90, 92, peut-être que vous avez, donc je ne vais pas donner trop de détails chronologiques, mais en 92, il y a le sommet de la Terre de Rio. Au moment de le sommet de la Terre de Rio, c'est un moment de décision, de mise en place de projets pour essayer de réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Et finalement, il y a une chose qu'à ce moment-là, presque personne n'avait anticipé, c'est la montée en puissance d'un certain nombre de pays. Le premier d'entre eux, c'est la Chine. Donc là, ce n'est pas tous les pays du monde qui sont représentés, mais c'est juste quelques pays qui sont un petit peu emblématiques, qui représentent, en mettant l'Europe comme un pays, les premiers émetteurs de gaz à effet de serre. Et donc, ce qu'on voit, c'est que la progression s'est faite très rapidement, de manière très particulière, et c'est quelque chose donc qui fait que, ce qui explique un petit peu les diagrammes que j'ai montrés précédemment, on est face à une augmentation, tout ce qui est chinois, qui est très rapide. Voilà, alors, les mêmes gaz, quand on essaie de regarder cette fois leur impact en termes de contribution à tout ce qui est chauffage, à tout ce qui est usage d'énergie, c'est quelque chose qui est très marqué aussi. Hein. On retrouve, on a vu que les gaz à effet de serre, c'est 80% des émissions à peu près. Les émissions de carbone dans l'atmosphère et les gaz à effet de serre, ben, c'est aussi à peu près 80% de l'énergie que l'on fabrique à l'échelle de la planète. Donc ce que l'on peut voir ici, c'est quand même des choses qui sont, je pense, assez importantes, c'est qu'on peut regarder le lien qu'on a, en fait, ici on a, je l'ai redit, c'est le charbon, le pétrole, le gaz naturel, en jaune c'est le nucléaire qui a augmenté, alors on est là sur une chose qui s'arrête il y a quelques années, mais on est en continuité avec cela, en violet c'est l'hydroélectricité, En vert, c'est tout ce qui correspond à des systèmes végétaux, avec des choses très, très variées, qui peuvent passer de la, de l'agriculture à, au contraire, des usages de biocarburants. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont derrière, derrière ce qui est vert ici, puis il y a déforestation aussi. Et vous avez en gris l'état à cette époque-là de ce que représentent les énergies renouvelables quand on les considère non pas comme fabricants d'électricité, mais comme participants à la fabrique globale d'énergie. Donc on est face à un système où le rôle des gaz à effet de serre est absolument dominant, même s'il représente en termes de masse un ensemble relativement faible, mais alors pourquoi est-ce que ces gaz à effet de serre jouent un rôle aussi marquant? Et c'est quelque chose qui est souvent difficile à comprendre, et la manière, je pense, la plus simple de l'appréhender, c'est de voir ça comme une situation qui est la rupture d'un équilibre. Alors vous avez ici un diagramme qui est aussi un diagramme qui est observé, mais qui est observé sur une période beaucoup plus longue, de 10 000 ans ici. Et ce que vous pouvez voir sur ces 10 000 ans, c'est que le niveau de CO2 ici, ou de méthane, ou de protoxyde d'azote en bas, c'est un niveau qui est resté très stable. Alors, ce n'est pas resté très stable sur toute l'histoire de la planète, mais sur cette histoire récente, les 10 000 dernières années, on a eu effectivement des conditions un peu particulières qui ont amené le développement très rapide des humains, la manière de l'adaptation et le démarrage en fait d'une démographie humaine extrêmement forte. Et ce que l'on peut voir, c'est que ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment cet équilibre éventuellement pas toujours facile à expliquer complètement, mais on voit qu'il est là, il existe, et il y a une rupture de cet équilibre. Et cette rupture d'équilibre, c'est sans aucun doute possible quelque chose qui est lié aux émissions de gaz à effet de serre. Donc on est face à cette période nouvelle, et quand on regarde en fait les choses un tout petit peu plus en détail, là vous avez un petit diagramme, et c'est pour ça que j'ai conservé ce diagramme qui est un petit peu ancien, parce que je trouve qu'il est très bien fait de ce point de vue-là. Vous avez ici des émissions qui croissent très rapidement après la Deuxième Guerre mondiale. Donc on est face à un problème qui est en fait un problème récent, et ce problème récent, il n'est pas toujours imaginé comme tel. Et les émissions de gaz à effet de serre sont des choses qu'on a surtout été capable d'estimer par des modèles climatiques, par des équations, mais qui ne se sont révélées de manière observable facilement un peu plus tard. Donc on est face à quelque chose aujourd'hui qui a surgi dans l'observable, observable par tous les citoyens, vers la fin des années 90. C'est à peu près là qu'on commence effectivement à être capable de montrer des conséquences du changement climatique et de les montrer, en tout cas, même au grand public. Alors, les conséquences, maintenant, on peut aussi les observer. Et ça, je pense que c'est pour ma génération quelque chose qui était un petit peu inattendu. Alors vous avez ici des températures, les températures de la planète. Alors c'est quelque chose qui a été fait par la NASA, le GIS.
Attention au micro, on n'entend plus bien.
Oui, je me mets plus près.
Merci.
Cela va comme ça? Autrement, je peux monter le son. Donc, ce que l'on voit ici, c'est effectivement des températures qui ont augmenté de manière très forte après la Deuxième Guerre mondiale. Tout ce qui est avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est un tout petit peu compliqué. On a eu avant un petit âge de glace, donc il y a une partie qui est la fin de ce petit âge de glace. Et on a aussi une grande difficulté à avoir des données. Quand on regarde, là ici, on est en train de faire regarder les températures sur l'ensemble océan-continent, et ce qu'on pouvait observer dans les continents antarctiques, par exemple, dans les années 1800, c'est assez très limité. Hein. Il n'y a pas encore de personnes qui soient arrivées jusqu'au centre de l'Antarctique à cette époque-là. Donc, Ce que l'on voit, c'est que par contre, à partir des années 60, on a quelque chose qui est un petit peu différent. On a une espèce de palier ici. Alors ce palier, on va y revenir, il est lié au fait que les émissions, j'ai parlé d'émissions de gaz à effet de serre, c'est aussi des émissions d'aérosols. Et autant les gaz à effet de serre ont un rôle qui est de retenir la chaleur de la planète. Donc, en fait, ce que font les gaz à effet de serre, c'est d'empêcher la planète de se refroidir. Autant les aérosols ont plutôt tendance, au contraire, à refroidir la planète parce qu'ils réémettent du rayonnement vers l'espace. Donc, on est face à une situation où, par contre, les aérosols restent très peu de temps pour la plupart dans l'atmosphère. On y reviendra un petit peu tout à l'heure. Et ce que vous voyez ici, donc c'est une phase un petit peu incertaine où finalement les choses commencent, les émissions d'après la Deuxième Guerre mondiale commencent et puis il y a une sorte d'hésitation du système. Et puis au bout d'un moment, c'est les gaz à effet de serre qui se stockent dans l'atmosphère, qui se stockent durablement dans l'atmosphère, qui vont l'emporter. Et ce qu'on voit, c'est qu'ils l'emportent de manière assez forte. Puisque ce que vous avez ici en noir, c'est donc la courbe rouge, c'est une courbe qui est une courbe lissée un petit peu sur 10 ans. Et ce que vous avez ici, c'est en noir, c'est les fluctuations naturelles. Hein. Donc, tout ce qui est naturel, c'est ce qui n'est pas a priori trop lié aux humains. C'est comme ça que c'est la sémantique qui s'est imposée. Et ce que l'on voit donc, c'est que l'évolution des températures aujourd'hui est beaucoup plus rapide en termes global s'agissant de ce qui est lié aux émissions de gaz à effet de serre en très grande certitude et ce qui est par rapport à ce qui est à ces mouvements qui sont donc les mouvements de variabilité naturelle du climat. Donc c'est quelque chose qui est maintenant une réalité avec laquelle on doit s'habituer, et cette réalité bien, continue parce qu'on continue d'émettre des gaz à effet de serre, et je l'ai dit, on les continue de manière croissante. Donc on n'est pas du tout en train de résoudre le problème aujourd'hui tel qu'il est. Et, alors il y a une petite faiblesse qui était liée au Covid. Bon, ça reste quelque chose pour le moment qui a un certain côté emblématique, mais qui est très partiel en fait comme solution, puisque c'est les gaz à effet de serre continuent d'augmenter, continuent de se stocker, même si c'est un peu moins vite avec le Covid. Alors, il y a eu, et je vais rentrer là maintenant dans un tout petit peu d'anticipation liée au modèle, mais je veux arriver jusqu'au bout de ce que je veux dire, donc je vais aller assez vite sur les modèles. Il y a eu des capacités à essayer de simuler ce que donne, ce qui se passera dans le futur. Et il y a une expérience que je cite souvent, qui est celle-ci, qui a été faite en 2001, enfin plus exactement produite pour le rapport du GIEC de 2001, et qui se base sur un travail qui a été fait, qui est un travail un petit peu déjà qui dépasse la stricte physique, consiste à essayer de regarder quels sont les facteurs d'émission de gaz à effet de serre. Donc ça peut dépendre de la démographie, ça peut dépendre de la manière dont on réagit face aux problèmes environnementaux, ça peut dépendre de beaucoup d'éléments. Donc, une espèce de futurologie qui a permis de définir des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Et puis, ces scénarios de gaz à effet de serre, ils dépendent un peu des modèles, pour une part. Ils dépendent bien sûr de ce que l'on émet. Et donc, on a utilisé les différents modèles pour avoir une sorte de revue, enfin d'estimation de quels sont, sinon les minima et maxima, du moins la fourchette crédible dans laquelle peut se développer un changement climatique. Alors, vous avez ici une courbe rouge que j'ai rajoutée parce qu'à l'époque où ça a été fait, c'était l'objectif qu'on voulait se donner par rapport à ça, ne pas avoir un dépassement du CO2 dans l'atmosphère de plus de 2 degrés. Sachant que 2 degrés, c'est déjà beaucoup. Ce qui nous sépare d'un âge glaciaire, donc on a eu des fluctuations glaciaires, interglaciaires, qui se sont achevées à peu près avec l'époque que j'ai montrée, celle de cette très grande stabilité du climat des 10 000 dernières années. Et cette période-là, c'est une période donc qui a servi de référence un petit peu, mais qui est déjà très avancé, puisque ça veut dire qu'on est pratiquement à pas très loin d'être à mi-chemin de ce que représente une transition glaciaire-interglaciaire quand on est à 2 degrés de réchauffement. Donc, ce qu'on voit ici, c'est ce que les modèles ont pu anticiper. On voit qu'il y a quand même une différence entre les modèles, que cette différence s'accentue au fil du temps, et puis ça dépend bien sûr des émissions qui sont différentes. On a différents scénarios d'émission, je ne vais pas trop détailler, c'est un diagramme sur lequel on peut passer une demi-heure, je ne vais pas le faire. Mais ce qui est très frappant et qui a beaucoup frappé tout le monde, c'est que quand on regarde cette courbe, c'est une courbe qui dépasse toujours ce seuil de 2 degrés. En tout cas, si vous regardez les émissions les plus faibles, ici, elles arrivent au-dessus, sauf pour quelques modèles, mais de toute façon, on n'est pas stabilisé. Ce qui compte, si on veut définir, par exemple, une neutralité carbone, c'est le niveau auquel on stabilise les émissions de gaz à effet de serre. Donc, cette courbe, qui est le résultat d'un travail assez important, ne montre pas de stabilisation. Alors ça a beaucoup préoccupé tout le monde. Et ça a permis de mettre en place des scénarios un petit peu différents sur lesquels je vais revenir juste après. Alors, un dernier point, c'est que ça nous donne quand même une référence avec laquelle on peut travailler. En 2000, c'est le moment où on fait démarrer ces modèles, on a un certain type de réchauffement. Aujourd'hui, on est par ici. On voit que cette première période, c'est une période dans laquelle, quand on connaît l'état initial, il y a une séparation des différentes trajectoires qui n'est pas très grande. Ça veut dire qu'en gros, on sait à peu près ce que sont les 20 prochaines années, elles sont écrites, et je reviendrai là-dessus sur ce que ça veut dire un petit peu plus. Alors, juste un mot sur les modèles. Alors, c'est une image qui est un tout petit peu floue, je m'en rends compte, je ne sais pas, je l'ai agrandi sans faire attention. Il y a deux cartes ici, deux cartes qui sont destinées à vous montrer un petit peu ce que valent les modèles, avec un exemple qui essaie de simplifier. Il faut s'intéresser qu'à la géographie qui est ici. Ça, c'est la géographie du réchauffement tel qu'on peut le mesurer ou l'anticiper. Alors, en haut, c'est une anticipation. C'est le résultat de modèles climatiques et il n'y a aucune observation de température. C'est-à-dire que c'est des températures qui sont calculées par le modèle. Et ce que l'on voit, en fait, ici, ce n'est pas le calcul total, c'est la manière dont les émissions de gaz à effet de serre modifient la température. Donc, c'est la température telle qu'elle est modifiée par les gaz à effet de serre et telle qu'elle est calculée par nos modèles. Alors, nos modèles sont des modèles qui sont complexes, qui sont peut-être un million de lignes de code. C'est quelque chose d'extrêmement lourd. Ça représente, je pense, en termes de complexité, quelque chose d'un peu équivalent à un satellite. Et ce que vous avez en bas, ben c'est l'observation réelle, l'observation qui a été faite par en fait, les mêmes laboratoires que j'ai cités tout à l'heure, de la NASA, mais il y a 3-4 laboratoires qui font ce travail, et c'est très cohérent. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a quand même, alors ce n'est pas exactement pareil, mais quand même il y a un lien et très fort entre les deux. Ce qui veut dire que nos planètes artificielles, celles avec lesquelles on réfléchit, sont des planètes qui ont quand même un lien très fort avec la planète artificielle qui a une trajectoire unique. Cette trajectoire, là, on peut jouer, on peut faire plein de planètes autant qu'on veut. Là, on n'en mesure qu'une seule. Bien sûr, elle dépend un petit peu de tas de choses, mais il y a des liens qui sont très forts. On voit ici, par exemple, une chose qui est liée au Gulf Stream, qu'on retrouve ici. Donc, le modèle prend en compte l'océan. Et cette prise en compte de l'océan conduit à quelque chose qui est assez similaire dans la zone arctique à ce qu'on peut observer. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui nous dit qu'effectivement tout ce que j'ai montré conduit à des évolutions futures dont on a toutes les raisons de se méfier. Alors, on a d'autres preuves, on en a beaucoup en fait, et il y en a une que je vais citer, c'est effectivement le fait que l'énergie qu'on n'est plus à l'équilibre aujourd'hui, on a émis beaucoup de gaz à effet de serre, il se stocke dans l'atmosphère, et il y a une partie qui va se stocker en termes de chaleur, qui va se stocker dans le fond des océans. Donc on est face à, dans les océans et dans le fond des océans. Donc on est face à des choses qui évoluent de manière indubitable aujourd'hui, et qui sont en situation de continuer à évoluer. Voilà, alors juste pour faire une toute petite pause, montrer quand même que quand on regarde l'océan, on regarde quelque chose de compliqué. J'ai montré une image très simple de l'océan. L'océan, c'est ça, hein, c'est des tourbillons, c'est beaucoup de mécanique des fluides, c'est des choses On arrive à simuler avec des modèles qui représentent. Ça, c'est une vision qui est un mixte avec, entre des modèles et des observations. Et ça vous donne une idée quand même de ce qu'on est capable de faire pour comprendre la circulation saine. Donc, je ne vais pas y passer trop de temps, mais c'est pour ne pas donner une image de nos sciences qui soit une image un petit peu trop caricaturée. Hein. Donc, on sait beaucoup de choses qu'on ne peut pas montrer dans un exposé comme celui-ci. Et c'est là-dessus qu'on s'appuie quand même pour faire pour essayer de comprendre comment le système évolue. Voilà, alors la question qui se pose aujourd'hui, c'est une question, on voit bien qu'on n'est pas parti pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de dimensionner les efforts qui sont devant nous et comment est-ce qu'on peut essayer de se donner des objectifs? Alors, première chose, c'est que quand on fait cela, et je vais pas, c'est un diagramme que je montre quelquefois de manière longue et à des élèves, et puis d'autres fois, je vais faire sur un mode qui est celui que je vais utiliser ce soir, qui consiste à dire, regardez, c'est compliqué, parce qu'effectivement, des gaz à effet de serre, il y en a quatre à longue durée de vie, qu'on voit là-haut, ils ont une chimie qui peut être différente. On a aussi des aérosols, dont j'ai parlé, qui sont des aérosols qui, effectivement, restent une chimie très active, généralement ils sont toxiques, on les voit, donc ils sont renouvelés, ils ont une chimie compliquée, mais enfin on en remet tout le temps dans l'atmosphère, donc ils sont là. Et puis vous avez ensuite des choses qui sont liées aux nuages, à l'interface entre les nuages et les aérosols, donc c'est quelque chose de compliqué de comprendre la manière dont le forçage radiatif évolue, c'est-à-dire cette la différence entre ce que la planète reçoit d'énergie puisqu'elle réémet vers l'espace, mais ça évolue d'une manière qu'on est capable de mesurer et d'estimer. Alors, un point que je voulais signaler, là aussi c'est une image qui est jolie, que je ne montrerai pas peut-être jusqu'au bout. Souvent on prend cette image-là, c'est encore quelque chose qui vient de la NASA, comme une représentation du réchauffement de la planète. Alors, ce n'est pas vraiment ça, c'est quelque chose, c'est lié bien sûr, mais c'est quelque chose qui représente la quantité de CO2 dans l'atmosphère par rapport à une référence initiale. Donc, ce que l'on voit, c'est que là, on est en hiver, à peu près à la période actuelle, le CO2 n'est pas dans les sols, il est dans l'atmosphère. Et puis, progressivement, ce que l'on va voir, c'est que ce CO2, va toucher l'autre hémisphère. Donc, je vais laisser peut-être le temps. Ce que vous pouvez voir aussi au passage, c'est le fait qu'on est face à des mouvements qui sont complexes, les mouvements de l'atmosphère. Ce sont ces mouvements qui assurent le mélange entre les différentes modalités, en fait, sur lesquelles je reviendrai un petit peu, d'évolution des températures dans l'échelle d'une année, et puis ce qui représente quelque chose de grande échelle, à l'échelle d'une année, vous voyez que les gaz sont mélangés, les gaz à effet de serre sont mélangés, le CO2 en l'occurrence ici, et on va avoir effectivement quelque chose qui est mondial. On va parler de mondialisation, on parlait de Covid, on se retrouve avec l'atmosphère qui est quand même un élément de mélange qui est très rapide, et ça vaut pour les gaz à effet de serre. Donc on n'est pas dans une situation où on va pouvoir traiter ce problème des gaz à effet de serre comme un problème local. Et je pense que c'est le message essentiel que je vais donner pour cette première partie d'exposé, mais je vais dire deux petites choses encore avant de passer à la deuxième partie, à la partie plus locale. C'est qu'on est face à un problème s'il doit trouver des solutions globales, va les trouver avec une certaine difficulté. Voilà, alors au moment de l'accord de Paris, il y a eu une manière d'essayer de regarder les changements en se disant, on va faire un travail un petit peu inverse. On va essayer de se dire, qu'est-ce qu'on veut atteindre comme niveau de température, et puis à partir de ça, qu'est-ce qu'on a le droit d'émettre encore. Alors, vous avez un premier diagramme qui est simple. Alors, je les ai choisis un peu pour leur simplicité. Il y a des choses en anglais, mais ici, en vert, c'est en gros ce à quoi on a droit, ce qu'on peut émettre. on peut faire un calcul pour rester sous un niveau de température. Donc là, c'est pour avoir 66% de chance de ne pas dépasser les 2 degrés dont j'ai parlé tout à l'heure. On a le droit d'émettre ce qui est là. Et ce qu'on a déjà émis, et là, c'est un calcul qui est en fait en considérant tous les gaz à effet de serre, ce qu'on a déjà émis, c'est là. Et là, il nous reste ça à émettre. Alors, ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est que c'est quand même... Enfin, ce qu'on voit déjà, c'est que c'est très peu, en fait, ce qui reste à émettre. C'est en gros, au rythme où on émet quelque chose qui est de l'ordre de décennies, peut-être, donc il ne reste plus beaucoup de temps. Et l'idée, c'est que peut-être on pourrait essayer d'arranger cela en développant ce qu'on appelle des émissions négatives, c'est-à-dire des puits de carbone qui permettraient de se donner un peu d'air au sens presque étymologique du mot. Donc ça, c'est un premier élément que je voulais montrer. Et il y a un diagramme ici qui est un tout petit peu plus complexe, mais qui vient aussi de notre modèle climatique et qui était un diagramme fait par Dufresne au moment de la COP21. Ce que vous voyez ici, c'est le niveau de réchauffement sur lequel on voudrait rester. Donc, c'est un réchauffement qui est observé, et à partir de ça, le réchauffement qu'on peut anticiper, on a vu qu'avec les modèles, pour les quelques premières années, on s'est anticipé, mais même en fait, on peut faire des scénarios qui vont plus loin, qui dépendent un peu des différents modèles. Et donc, ce que l'on veut, c'est rester au niveau de la courbe bleue. Et pour rester au niveau de la courbe bleue, la manière dont on doit s'y prendre, pour notre modèle, mais pour la plupart des modèles aussi, c'est d'arriver à ce qu'on appelle maintenant la neutralité carbone. Alors, la neutralité carbone, on la calcule maintenant pour un effort qui serait un effort porté à un niveau plus bas, c'est-à-dire de rester sous les 1,5 degrés de réchauffement. Là, c'est en donnant donc 2 degrés. Et on voit c'est qu'on a besoin d'arriver à zéro émission. Alors là, c'est pour le CO2 seulement. On a besoin d'arriver à zéro émission avant la fin du siècle, et donc avoir éventuellement des émissions négatives si on n'arrive pas à faire cela. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important, et ce qui s'est passé, c'est que cette vision a pourtant été vue comme insuffisante par beaucoup de gens, parce que un demi-degré en plus ou en moins, ça compte. Il y a beaucoup de travaux qui montrent que ça compte. Et donc, on est dans une situation qui fait que on aimerait bien rester sous les 2 degrés. Alors, ça a été une demande qui a été faite explicitement au GIEC, par la COP21, qui est une condition en fait, de signature de la COP21 par beaucoup de gens. Et vous avez ici 4 scénarios que je vais essayer de donner rapidement, qui sont des scénarios qui ont été donnés par le GIEC. Vous avez un premier scénario qui est qu'est-ce qu'on peut faire? La première chose, c'est de réduire drastiquement les choses. Réduire drastiquement les choses, c'est d'arriver à la neutralité carbone en 2050, c'est-à-dire dans moins de 20 ans maintenant, et donc de le faire de manière brutale. Donc ça veut dire plus d'auto, plus d'avions, plus de transports en commun, à l'échelle du globe, bien sûr. Donc ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, c'est un scénario où on commence à être capable d'enfouir du CO2, de séquestrer, d'enfouir dans les couches profondes de l'atmosphère. Alors, on va en parler dans les questions, mais c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on ne sait pas bien faire. C'est surtout pas capable de mettre à l'échelle. Et puis après, vous avez deux autres scénarios dans lesquels on a aussi une captation de CO2 qui se fait cette fois par la végétation, par les agro-systèmes. Et on l'a ici sous une forme qui permet de rester sous les 2 degrés. Sous le 1,5 degré, et puis ici, il y a un dernier scénario qui est de se dire on n'y arrive pas, et comme on n'y arrive pas, on fera ça plus tard. Donc on a un dépassement, et puis on reviendra au 1,5 degré, mais plus tard. Alors ce plus tard, il est difficile, parce qu'effectivement, l'intervalle qui nous sépare de ce plus tard, on continue d'émettre des gaz à effet de serre, et donc ce n'est pas très facile ensuite de s'en débarrasser. Voilà, alors moi, je dirais que mon réflexe personnel, quand j'ai vu ces scénarios-là, c'était que vraiment, on est dans une situation extrêmement difficile. Imaginer aujourd'hui qu'on aura une unanimité pour ne plus avoir, pour que tout le monde accepte la disparition totale de tout ce qui est motorisation telle qu'elle existe aujourd'hui d'ici 25 ans ou d'ici 30 ans, ça paraît difficile et surtout on n'a pas la main complètement sur ces problèmes-là. Alors, pour moi, ça m'a incité quand même beaucoup à regarder un petit peu comment on devait, qu'est-ce qui était possible. Et là-dessus, je voudrais attirer l'attention sur une chose, c'est qu'effectivement, il y a des choses qui paraissent faciles. Diminuer le gaspillage, diminuer, et qu'on doit faire, qu'on doit absolument faire. Mais on voit aussi qu'on est dans un niveau de problématique qui fait qu'on doit nécessairement aller vers des problèmes d'infrastructure, de transport, d'urbanisme, tout ce qui contribue à mettre des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Il y a une partie qui est du gaspillage, et puis il y a une partie qui réclame des infrastructures nouvelles. Donc, c'est ce qui fait qu'on est confronté maintenant à un problème qui est difficile. Alors, la manière dont je l'ai progressivement un petit peu abordé et conçu, alors quand je dis « je », c'est vraiment un travail collectif dont je parle, qui est sollicité par la région Aquitaine, il y a déjà une dizaine d'années, pour donner un avis sur ce qui pourrait se passer dans la région Aquitaine. Alors pourquoi la région Aquitaine? C'est parce que c'est ma région d'origine. J'ai un nom breton que je ne renie pas, mais c'est mon papa et ma maman est Aquitaine. Donc j'ai gardé en fait cette filiation très fortement. Et donc j'étais content de retourner entre guillemets chez moi pour travailler là-dessus. Mais j'ai pris la mesure de ce que ça représentait comme intérêt que petit à petit, au fil du temps et au fil de beaucoup de discussions avec des collègues là-bas. Alors, pour essayer de résumer en fait ce problème, c'est qu'on voit bien que l'adaptation au changement climatique, elle est insuffisante bien sûr, mais elle est nécessaire. Insuffisante parce qu'on voit bien que ça ne nous empêchera pas un réchauffement qui viendra souvent d'ailleurs, mais elle est nécessaire parce qu'aujourd'hui il y a un devoir de protection. Et je crois que ce devoir de protection, on l'oublie trop souvent. Ce devoir de protection est assorti d'une capacité, enfin, il devrait résonner avec la capacité que j'ai montrée, que l'on a maintenant, d'anticiper ce qui peut se passer, au moins dans les 20 prochaines années. On a vu que les modèles avaient été capables de faire quelque chose de cohérent par rapport aux observations qui sont venues après, dans les deux dernières décennies. Donc en fait, on a cette là qui devient aujourd'hui une nécessité. Et l'autre point, c'est le fait qu'on se rend bien compte aujourd'hui qu'on a dépassé des enjeux. On est dans une forme dans une situation qui fait que tout n'est plus possible. Donc j'ai essayé de le dire, dans ce tout qui n'est plus possible, il y a aussi des aspects qui sont des aspects sociaux. Alors, j'aime bien montrer cette petite courbe ici, où je peux montrer l'autre aussi. Vous voyez ici, on fait décroître les émissions, il y a toujours un petit plateau. Alors, ce petit plateau, c'est ce que l'on retient des enjeux sociaux dans la manière dont on essaie de concevoir ce qui est possible dans le futur. Et c'est quand même une perception qui est une perception qui a ses limites, on va dire. Et aujourd'hui, on est face à un problème qui est un problème qui dépasse très largement le problème strictement physique. Il le dépasse pour les aspects sociaux, il le dépasse aussi pour les aspects de biodiversité, dont je parle moins parce que c'est. Mais qui sont, à mon avis, les plus importants, parce que une fois qu'on aura fait disparaître tout ce qui est. On est des humains, donc des animaux, et une fois qu'on aura beaucoup abîmé la biodiversité, on aura peut-être un peu de mal à trouver notre place sur cette planète. Voilà, alors l'idée ça a été donc de regarder ce qu'apporte la région et de le faire de manière assez simple, en se basant un peu sur l'expérience que j'avais eue au GIEC. Donc on a fait deux gros états des lieux, un premier pour la région qui s'appelle encore la région Aquitaine, paru en 2013, et puis un deuxième qui est paru en 2018. Alors, au total, c'est à peu près 400 personnes qui ont travaillé à ça pour essayer de voir ce que peut être le futur de la région Aquitaine. Et quand je dis 400 personnes, c'est 400 scientifiques seniors. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations qui sont disponibles, dont on se rend compte qu'elle est assez peu utilisée en dehors d'une vue en silo un peu de ces problèmes-là. Et donc, ce que je vais essayer de faire maintenant, dans le temps qui me reste, qui est 15 minutes, d'essayer de dire un petit peu ce qu'on a essayé de faire et qu'est-ce que ça apporte en fait à la réflexion, du moins c'est ce que je pense. Et donc, d'abord, j'ai mis le mot territoire, et le mot territoire, c'est un mot qui, quand on commence à s'intéresser à des enjeux locaux, c'est un mot qui est très fréquent, pas très facile à évoluer, parce qu'il y a des petits territoires, des grands territoires. Là, on parle de la région Aquitaine, qui est une grande région, mais il y a donc toutes sortes de territoires. Le mot territoire, pour moi, renvoie à la présence humaine. Et cette présence humaine, elle est importante, parce que finalement, il n'y a rien qui se fait... on parle effectivement d'un problème qui est lié aux humains, et ça se fait toujours quelque part. Quand on émet des gaz à effet de serre, il y a toujours un quelque part où on les émet. Et ce quelque part où on les émet, c'est quand même un espace qui doit être un espace de réflexion sur ce qu'on fait, sur ce qu'on peut empêcher de faire, et qui est, à mon avis, un espace essentiel. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans les dernières années, c'est le fait que j'ai fait beaucoup d'exposés, comme je fais ce soir, et la question qui revient toujours à la fin, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Et cette question-là, elle est difficile, parce que je pense que les objectifs qu'on s'est donnés sont des objectifs qui sont extrêmement difficiles à tenir. Et je pense qu'on en est dans une situation aujourd'hui où on doit surtout faire le mieux qu'on peut, sachant qu'il y a des choses qui sont... on ne pourra pas tout faire à la fois, on ne pourra pas sur les mêmes territoires diminuer les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi fabriquer des hydrocarburants, mais aussi donner une large place à la biodiversité. Tout ça sont des choses qu'on va être obligé d'arbitrer. Et cet arbitrage, c'est un arbitrage qui vient nécessairement dans l'espace des territoires. Et cet espace des territoires, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, il est assez peu étudié. Je l'ai dit, en fait, on a beaucoup d'études en silo, mais les territoires sont des lieux qu'on doit étudier de manière systémique. Alors, je vais reprendre quelques images, enfin, quelques idées générales un petit peu pour ça. C'est clair que le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, il subit ce qui vient d'ailleurs, il subit le réchauffement, donc ce n'est pas un lieu où on peut résoudre tous les problèmes qui sont là. Par contre, dans ce qu'il subit, il y a des choses qui méritent d'être considérées. Vous avez ici les températures sur toujours c'est l'année 50 quelques, à peu près de ma naissance. Et ce que vous avez ici, c'est les températures qui augmentent, et qui augmentent à peu près sur cette période de 1,4 degrés, donc c'est déjà beaucoup. Hein, le réchauffement est plus rapide sur les zones continentales que sur les zones marines. Voilà, ça c'est quelque chose sur lequel les habitants de la région ne peuvent pas grand-chose aujourd'hui, mais il y a un domaine sur lequel ils peuvent essayer d'agir, c'est donc, associé à cela, vous avez des sécheresses agricoles. Donc, il y a une manière d'essayer de réagir face à des situations qui nous sont imposées et qui devient aujourd'hui quelque chose d'important. Alors, c'est moins facile qu'on ne le croit parce que si on regarde les domaines régionaux, c'est un domaine où on n'a pas un type de changement climatique très simple. On est souvent sur un domaine régional face à des choses qui sont complexes, qui oscillent, qui ont des... Donc, si on regarde, par exemple, la manière dont se construit, même à grande échelle, le paysage autour de la région atlantique, on a la dépression d'Islande au nord, vous avez l'anticyclone des Açores au sud, alors c'est une position qui varie un petit peu selon les saisons, je vais donner deux références ici qui sont celles de l'été et de l'hiver, c'est lié à travail de Cassou, le prénom m'échappe juste, qui est un des très grands spécialistes de ces problèmes-là en France et ailleurs. Et bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, là, on a une oscillation entre on appelle ça l'oscillation nord-atlantique, vous avez un mode ici et le mode inverse. Et puis, vous avez les anticyclones ou les dépressions qui peuvent se poser sur les continents à côté. Et puis, c'est un petit peu différent dans les deux situations d'hiver ou d'été. Donc, on a un système qui, en fait, peut créer plusieurs types de changement climatique. Donc si on parle de changement climatique, si on parle de comment s'adapter au changement climatique, on est obligé de prendre en compte une situation qui est un petit peu plus complexe au niveau local que la situation qu'on peut avoir au niveau global. Sachant que quand on parle de ça, quand même, souvent les gens pensent que plus on va vers des toutes petites échelles, plus c'est compliqué. En fait, les échelles qui comptent vraiment, c'est celle que je montre ici, c'est l'échelle des grandes structures atmosphériques. Ce sont elles qui déterminent un peu la complexité du système, et donc on peut, à partir de ça, dire des choses sur ce qui va se passer dans le futur. Voilà, alors, comment est-ce qu'on a agi? Ben, on est face à un système où on n'est pas capable de faire de vraies prévisions. Donc, si on ne sait pas faire de vraies prévisions, ce qu'on doit faire, c'est au moins être capable de déterminer la vulnérabilité des endroits auxquels on s'intéresse. Alors, c'est ce qu'on a fait. Il y a ici les thèmes d'un premier rapport. Je vais... étranger du groupe qui fait le travail sur le modèle global. Et puis vous avez ici tout un tas de noms de personnes qui ont vraiment travaillé à ces enjeux-là avec un chapeau qui est le chapeau des locaux, des gens qui se sont vraiment intéressés à cela. On a refait cela dans le cadre du deuxième rapport. Donc je vais, et peut-être vous avez les mises à jour, ça vous simple de ce qu'on a vu, donc le climat global, la pêche, l'agriculture, la montagne, les forêts, les risques sanitaires, la disponibilité de la ressource, le premier rapport, tout ça, il y avait d'autres éléments aussi.
Au micro.
Et donc, ce que l'on peut voir, c'est que les nouveaux thèmes que l'on a rajoutés sont des thèmes qui sont souvent des thèmes qui ont une coloration sociale. Hein, ou au contraire une coloration liée à l'énergie, à la nécessité d'agir sur les transitions énergétiques. Alors ça, c'est quelque chose qui est un fait important dans le fait régional, hein, c'est qu'on est face à des enjeux qui sont systémiques. Vous voyez ici un exemple qui est celui de l'eau. L'eau joue un rôle majeur, on parle pas très souvent changement climatique, on parle plutôt des températures, du carbone, mais l'eau, c'est absolument essentiel. Donc l'eau ici, elle vient des montagnes, elle, dans les montagnes, elle joue un rôle très important, parce que dans les Pyrénées, qui sont les montagnes qui sont représentées ici, on a beaucoup d'hydroélectricité, l'eau, elle a tendance à couler plus vite maintenant, parce que l'enneigement est aussi un enneigement qui se développe plus, enfin, qui se, la fonte de la neige plutôt se développe plus tôt dans l'année. Vous avez des étiages qui sont des étiages qui augmentent par contre, avec des effets sur la biodiversité. Je n'ai pas cité tout cela, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un système qui est un système, qui est un véritable système complexe avec des enjeux différents. Il y a aussi deux centrales nucléaires sur ce territoire. Donc il y a des choses qui sont qu'on peut étudier de manière un peu systémique avec des jeux d'équations quand même. Puis il y a aussi des choses qu'on ne sait pas étudier autrement que par une certaine manière un peu empirique de les regarder. Donc on est face à un système qui est compliqué. Je pense qu'on ne pourra vraiment l'analyser qu'en utilisant des techniques qu'on n'est pas tout à fait à l'aise aujourd'hui pour utiliser vraiment de manière forte comme l'intelligence artificielle. On est face à des systèmes qui sont réellement compliqués localement. Et donc, il y a vraiment un besoin de regarder cela de manière un petit peu plus, un peu plus détaillée aujourd'hui, parce que l'espace des solutions, il se trouve quand même en grande partie là. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, donc ça, c'est pour montrer qu'il y a quand même derrière cette complexité, une complexité administrative. Alors la complexité administrative, on a plutôt l'habitude de s'en moquer, mais quelquefois elle est nécessaire. Il s'est créé en région des outils pour essayer de comprendre, d'utiliser les choses, et qui ne font pas nécessairement, comme je l'ai dit tout à l'heure, appel à toute la science qu'on est capable, en principe, de déployer sur ces thèmes-là. Alors, on a travaillé sur l'eau. De la ressource, je ne vais pas insister trop peut-être dans la réponse à des questions, mais juste j'ai pris cet exemple pour montrer que finalement capacité en tant que chercheur à se faire entendre sur des sujets qui sont des sujets où on aurait pu penser qu'on aurait été mal reçu. En fait, il y a une écoute qui se fait, une écoute des scientifiques. La disponibilité de l'eau, ça consiste là, en l'occurrence, de dire que on doit déterminer ce que sont les ressources en eau totales, les rivières, les ressources en surface, les ressources plus profondes, et que c'est à partir de ça qu'on doit déterminer les modes, les filières agricoles qui sont compatibles pour la région avec ce qu'on souhaite faire. Donc c'est des messages qu'on est en capacité de donner, qui sont écoutés, et donc je pense que c'est un intérêt important. Il y a d'autres enjeux, les villes, les montagnes, les zones vulnérables, et je l'ai dit, c'est la manière d'aborder ce problème, c'est la vulnérabilité, sont des zones qui sont nombreuses. Avec la grande région, on a effectivement aussi le contraste. On peut regarder ici, les montagnes des Pyrénées et celles du Limousin, ce n'est pas les mêmes. Problématiques sociales extrêmement différentes. Donc, on est dans cette nécessité-là d'agir, si on veut que notre recherche soit utile, d'agir à ces niveaux-là. Voilà, alors, je vais aller maintenant vers quelques conclusions. Il y a un tas d'autres choses que, bien sûr, j'aurais envie de dire, mais j'espère avoir l'occasion de les dire dans les questions, la réponse aux questions. Il y a plusieurs éléments qui sont importants quand on parle de la région, parce qu'on risque d'être mal compris. Le premier, c'est celui d'imaginer ça comme un lieu de refuge, si vous voulez. On essaie de regarder un petit peu ce qu'on peut faire pour se protéger, mais alors vraiment de manière solitaire par rapport à des enjeux qui sont importants. Alors, c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas du tout, enfin, en tout cas pour les scientifiques qui ont été impliqués là-dedans. Il est évident que les besoins les plus forts par rapport aux enjeux qui viennent vont être en Afrique. Là, j'ai un diagramme qui soit dans des ordres de grandeur, mais les besoins alimentaires à l'Afrique tels qu'ils avaient été calculés il y a quelques années pour essayer de savoir ce qui serait nécessaire à l'horizon 2050, c'est d'un facteur 5 par rapport à ce qui est présent aujourd'hui, enfin qui était présent il y a quelques années, et on voit qu'il y a des pays qui sont franchement, enfin il y a des zones qui méritent une attention un petit peu plus particulière. Donc, on ne peut pas regarder cela juste à l'aune de ce que l'on fait sur notre territoire. Alors moi j'en ai déduit quelques mots clés que j'essaie de mettre pour arriver à donner une conclusion à ce type de démarche. Premier, c'est qu'on devrait être capable aujourd'hui, au niveau de la science, de faire un suivi actif de l'environnement régional. C'est important parce que finalement, je l'ai dit tout à l'heure, le fait régional, c'est un fait dans lequel on construit les émissions nationales. Les faits, qu'est-ce qu'on fait quand on émet des gaz à effet de serre en région? On émet des gaz à effet de serre parce qu'on se déplace, on émet des gaz à effet de serre parce qu'on a un besoin d'habitat, qu'on chauffe, qu'on refroidit. On a aussi des filières agricoles, des filières qui sont des filières industrielles. Bon, il y a tout un ensemble de choses qui finalement ressemble beaucoup à ce qu'on souhaite faire quand on veut réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Alors, il y a eu beaucoup, beaucoup de débats consistant à opposer ce qu'on appelle l'adaptation au changement climatique, comment protéger les territoires, et puis l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Bon, je pense qu'à l'échelle de la région, on peut parler d'une approche résiliente, où on fait les deux à la fois et on le fait avec un suivi, qui soit un suivi qu'on puisse faire en temps réel. On a fait deux gros rapports. On aimerait bien substituer à ces deux grands rapports quelque chose qui soit une analyse en temps réel de ce qui se passe dans l'environnement régional. Et cette approche, elle doit être aussi anticipative, parce qu'on est en situation aujourd'hui d'anticiper les choses, et ça se fait en fait très peu. Il y a une vraie difficulté à cela. Une des choses qui nous a marqué dans le travail qu'on a fait en région Aquitaine, c'est que, bon, d'un moment, on a eu des sociologues qui, parmi nous, On est allé, alors quand je dis on, c'est quand même un Parisien qui ne s'est pas déplacé autant que les autres, mais j'ai un peu quand même, et même un peu plus que un peu, on a été effectivement essayer d'écouter les gens. Il y a eu à peu près 40 destinations au départ, il y en a plus après, et sur ces 40 destinations, la plupart au début c'était sur 3 jours pour rencontrer les élus, rencontrer les scolaires, rencontrer les agents des différentes villes. Et ça nous a permis d'avoir une vision en fait de ce que sont les enjeux, qui est quand même très différente de celle qu'on avait au début, et réciproquement d'avoir d'être sollicité par beaucoup, beaucoup de gens en région Aquitaine. Et donc, et le sigle, la Climaterra, maintenant, est connu dans cette région. C'est peut-être un peu au-delà. Mais... Voilà, alors j'ai mis le mot solidarité. Donc, solidarité, c'était par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure et que je ne répéterai pas pour les actions liées pour le lien avec les autres régions du monde. Il y a une citation que j'aime bien, que j'ai trouvée un petit peu par hasard, j'ai vu qu'elle est très connue. C'est l'universel, c'est le local sans les murs. C'est Miguel Torga qui est un. Qui vient du Portugal et qui résume assez bien, je pense, ce qu'on pense important à faire maintenant. Voilà, je vais m'arrêter là et je vais, à peu près en ayant. Voilà, je suis resté dans les temps que j'avais promis et donc il peut y avoir des questions.
Bien. Eh bien, bravo, merci. On peut actionner les mains qui font clap, 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 clap. C'est ce que j'ai fait. Bravo. Donc, il y a pas mal de réactions, de questions. Je vais essayer de traduire assez brièvement. Une des premières questions concerne la difficulté qu'il y a à séparer tous ces effets. C'est vrai, quand on voit les courbes, quand on voit les graphes, on voit des modélisations qui prennent en compte plein de paramètres. Et comme souvent nous avons besoin de choses simples, deux ou trois, pas plus, pas 15, pas 20, on aimerait savoir quels sont les effets les plus importants qui permettent, et quelles sont les causes en fait, qui produisent principalement ces effets-là. Je dis ça parce que j'ai vu par la suite plein de propositions du type oui, on va se déplacer avec des petites voitures. Bon, moi, il me semble que le problème n'est pas là. Il ne faut peut-être pas se déplacer avec des petites voitures. Il faut peut-être favoriser le transport collectif plutôt que les voitures individuelles. Bon, il me semble que toute forme de consommation d'énergie, en fonction du loi, de la loi, les lois les plus connues de la thermodynamique, ça se traduit par une déperdition. Il y a une déperdition d'énergie qui n'est pas noble. Et donc, ça se traduit par une augmentation de la température. J'ai entendu aussi évoquer l'électricité comme si c'était la panacée maintenant, les voitures électriques, etc. Sauf que on sait que le lithium est quelque chose qui est nécessaire pour les batteries des voitures électriques et que c'est extrêmement coûteux à produire, tant du point de vue environnemental que du point de vue humain, puisque ce sont des gamins qu'on met dans des conditions épouvantables pour obtenir ce produit-là. Voilà. Donc il y a toute une série de questions. Je vais m'arrêter là pour te répondre parce qu'il y a d'autres questions qui sont un petit peu liées, mais qui sont prises sous un angle un peu différent.
Alors, c'est toujours très précieux parce que on navigue toujours entre le refus d'être trop simple parce que cette simplicité quelquefois cache des choses qui vont être mal utilisées et puis le fait qu'effectivement il y a besoin de savoir se repérer dans la complexité. Alors, il y a des choses il y a des filières qui sont simples dont j'ai pas parlé. C'est qu'on a des gaz à effet de serre qui réchauffent. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ils réchauffent et tout vient de là. Derrière ce réchauffement, il y a des conséquences directes dont j'ai pas parlé non plus, qui sont des conséquences, par exemple, au niveau de la fonte des glaces arctiques ou antarctiques. Donc, qu'il s'agisse des glaces flottantes ou de glaces continentales. Donc, on a là des conséquences extrêmement directes avec des résultats variés. Le relèvement du niveau de la mer devient de fait, pour la fonte des glaciers continentaux, un élément presque direct d'ennui pour la planète. Hein. Donc, derrière cela, il y a des choses qu'on peut définir comme des conséquences indirectes qui sont quelquefois des conséquences difficiles à saisir de manière précise et qui ont toujours une connotation où finalement les scientifiques, on aime bien rester quand même sur ce que l'on sait, sur ce qu'on est capable d'étudier. Donc il y a dans ces conséquences indirectes beaucoup de choses qui ne sont pas pour lesquelles on n'a pas d'assurance complète. Ceci dit, les choses ont beaucoup évolué. Par exemple, si on regarde les feux de forêt, pour prendre un exemple, vous pourrez prendre l'exemple des inondations, par symétrie, c'est presque un petit peu les mêmes enjeux, c'est la même région, souvent, ont des périodes très, très chaudes et puis ensuite des périodes très humides. Donc, si on regarde ces enjeux-là, on est quand même dans une situation qui globalement, à l'échelle de la planète, est réellement ne peut être considérée que par rapport à un rôle des gaz à effet de serre. On ne peut pas imaginer que la croissance d'événements, qui sont des événements qu'on retrouve sur chaque territoire de manière un petit peu aléatoire, mais globalement, le fait qu'on ait un réchauffement ou on ait des inondations qui sont plus marquées qu'avant, c'est des choses qui sont extrêmement claires, mais c'est des choses qui se développent pour nous avec de manière un petit peu statistique, difficile à anticiper localement ou dans le temps. Donc c'est quelque chose qui pose un problème, effectivement, parce que ça a été peut-être plus facile de faire une communication sur la complexité relative qui est celle du réchauffement, par rapport à trouver des solutions locales. Est-ce qui marque effectivement la nécessité de trouver des solutions tout court, en fait, passer d'une science de l'alerte à une science qui est une science de la prise en compte des problèmes de manière beaucoup plus justement détaillée. Et là, je crois qu'il y a vraiment une espèce de difficulté à franchir un seuil vraiment qu'on n'a jamais réussi à franchir très fortement. Si vous regardez tous les débats qu'on peut avoir à la télé, qu'on peut avoir pareil, c'est des débats sur quelle est l'alerte, qu'est-ce qui va se passer. Et les débats sur qu'est-ce qu'on va faire sont des débats qui sont partiels. Il y a eu bien sûr beaucoup de débats autour de l'énergie. Il y en a eu beaucoup moins autour de la biodiversité, beaucoup moins pour ce qui concerne les faits sociaux. Et dans les faits, on n'est pas en situation aujourd'hui de mettre en œuvre des choses de manière, manière non clivée, enfin sans qu'il y ait immédiatement des voix qui s'élèvent, parce que c'est un travail qui n'a pas été vraiment fait. Donc voilà.
Oui, là, j'ai vu, ce n'est pas pour t'interrompre, mais j'ai vu effectivement d'autres réactions qui font des liens différents, par exemple problème démographique, extinction du vivant, conduit à l'extinction du vivant, conduit à la suppression de la biodiversité. Donc certains diraient on est trop nombreux, voilà. D'autres disent non, pas du tout, c'est la manière dont on gère nos ressources, on peut très bien accommoder 100 milliards, c'est ce que j'ai lu, 100 milliards d'êtres humains, il suffit de s'organiser, c'est donc un problème de méthode. Et c'est ce qui est en cause, c'est l'exploitation éhontée de la planète par un système économique que l'on connaît tous, hein, qui est le capitalisme, plus ou moins planifié, néolibéral ou pas. Voilà, donc ça c'est encore un autre angle.
Oui, alors c'est un angle qui est légitime, hein, c'est pas l'angle que moi je suis en situation de développer fortement en tant que climatologue, en restant sur ma discipline quand même le plus possible. Mais c'est un angle qui fait sens. Alors, la démographie me paraît être quelque chose de fondamental et en même temps extrêmement difficile, parce qu'on voit bien qu'il y a un clivage entre des pays très, très différents en termes d'histoire, en termes de ressources, en termes de qu'on a aussi un passé des pays, qui, des pays européens ou américains en termes aussi d'époque coloniale. Donc c'est très difficile, mais c'est évident que si on était sur la planète 3 milliards, je ne dis pas 3 milliards au hasard, parce que c'est qu'à l'école primaire. Quand j'étais à l'école primaire, il y avait une grande affiche dans la salle de classe qui disait, voilà, nous sommes 3 milliards. Et avec l'image d'un petit bébé. Et c'est une situation, bon, ben aujourd'hui on est à près de 8 milliards, donc c'est beaucoup plus difficile de vivre sur la planète. En même temps, aujourd'hui, on a quand même la très grande pauvreté, c'est 10%, c'est beaucoup, c'est énorme, mais ça augmente pas dans la même mesure. Donc il y a effectivement des choses auxquelles on peut s'adapter, mais ça va devenir de plus en plus difficile au fil du temps. Moi, je crois qu'aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est des débats approfondis sur ces problèmes-là. Et c'est vraiment ce qu'on aimerait faire en se posant sur une région, en la décortiquant, en regardant comment elle fonctionne, quels sont les enjeux, comment est-ce que, et puis qu'est-ce qui peut s'utiliser dans un autre contexte que celui d'autres régions ou d'autres par rapport à cela. Mais on est encore beaucoup dans des réflexes qui sont des réflexes un peu généraux et la réflexion sur est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut faire, n'est pas une réflexion consensuelle aujourd'hui. Elle est même, je pense, assez loin de l'être.
Oui, enfin, c'est vrai, mais il n'empêche qu'il y a énormément d'initiatives. Là, tu en donnes une locale au niveau de l'Aquitaine.
Oui, il y a énormément d'initiatives, ça je suis d'accord, et c'est une des choses qui rend un peu optimiste. Hein. On voit bien qu'il y a eu un effet, je trouve, qui est relativement récent, en fait, de prise de décision, qui n'est pas nécessairement impulsée par les autorités, toujours. Hein. Il y a beaucoup d'initiatives qui se font au niveau justement des régions, au niveau des d'acteurs locaux. Je pense qu'il y a dans ce domaine des initiatives, il y en a de toutes sortes, mais ça n'empêche pas le fait qu'on a pris, je crois, du retard, dans, si vous voulez, le premier grand accord, c'est l'accord cadre des Nations Unies sur le changement climatique, c'est juste après Rio. On n'a pas énormément évolué en termes de réflexion depuis cette époque, en termes de résultats, en termes d'essayer de définir quelles sont les difficultés un peu, mais en termes de il y a eu aussi des travaux sur des économistes, pour l'essentiel, en fait, on est resté un tout petit peu coincé sur des idées qui sont, on a des modèles, on regarde les modèles, on va très vite en besogne pour définir ce qu'il faudrait faire. Voilà, moi je le ressens effectivement comme ça.
On voit bien à quel point c'est compliqué, parce que on a vu, vous-même, vous avez fait appel à 4 scénarios. Donc ça veut dire, dont le premier qui consiste à dire plus de voiture, plus de consommation, plus rien du tout, ce serait les Amish, hein, pour citer le président il n'y a pas très longtemps. Et on voit bien à quel point c'est compliqué. C'est difficile.
En fait, c'est compliqué, mais en même temps, ça.
Ou alors, il faut revenir à Ivan Illich, qui effectivement expliquait que la Chine était le pays le plus développé sur la planète parce que la majorité des habitants utilisaient le vélo et que le rapport qualité-prix entre la vitesse et l'énergie dépensée est maximum si on compare au prix réel du kilomètre en utilisant une voiture, en tenant compte le fait qu'il faut qu'il y ait des gens pour la fabriquer, qu'il faut qu'il y ait des gens pour extraire les matériaux, qu'il faut qu'il y ait des gens pour réparer les voitures, il faut faire des routes, etc. etc. Enfin, voilà. Et donc, il avait un calcul extrêmement... je parle de ça dans les années 70. Et donc, c'était assez provocateur, mais il expliquait que finalement, la vitesse moyenne qu'il ne fallait pas dépasser, c'était à peu près 10 km/h. On peut très bien faire en vélo.
Voilà, alors, par rapport à ça, moi, c'est pas tout à fait mon domaine. Donc, ben, je veux dire, je parle en tant que citoyen. Mais si vous voulez, je crois que ce qui est important, c'est de réaliser que, encore une fois, tout ne va pas être possible, mais il y a des sujets qui ont pris la main sur les autres. Si vous regardez, même au niveau de la manière dont les banques favorisent le financement d'un certain nombre de solutions, le travail qui est celui de ma communauté, donc j'en parle facilement, qui est un travail basé sur des équations avec des résultats dont on peut montrer qu'ils sont solides et puis dont on peut montrer facilement qu'on doit, si on veut rester sous tant de degrés, on ne doit pas dépasser un certain nombre de seuils, et on est en train de les dépasser. Donc, par rapport à ça, on n'a pas la même capacité à définir. On sait définir à peu près quand même ce qu'est un risque climatique, pas de manière très précise, mais on sait le définir. On a plus de mal à définir ce que sont les risques de la biodiversité, ce que sont les risques sociaux, ce que sont les risques des droits, liés aux droits de l'homme, hein, aussi, pourquoi pas. Donc la définition, et pas, quand je dis pourquoi pas, je pense qu'il faut prendre ça en compte. Donc quand on va définir des manières de développer nos perspectives sur le futur, on va être obligé de faire des arbitrages. Et ces arbitrages ne relèvent plus d'une démarche qui est strictement celle de la science. Mais il y a par contre une manière de mettre en avant certains sujets par rapport à d'autres parce qu'ils paraissent peut-être plus scientifiques, plus probants, plus... La biodiversité, c'est un problème qui est un problème extrêmement grave. Donc je crois que là, il y a un espace de réflexion qu'on doit avoir qui est un espace qui, pour le moment, n'est pas complètement rempli, même si, comme vous le dites, il y a énormément de prises d'initiative, il y a énormément de gens qui se soucient de ça, mais la marge de consensus que l'on a aujourd'hui sur ces initiatives est plus faible que je pense que ce qu'on devrait avoir.
Vous auriez vous pourriez agir sur un levier. Quel prendriez-vous?
Très certainement l'éducation. Je suis enseignant depuis beaucoup d'années, vous l'avez vu. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une telle incompréhension des enjeux quand on prend la société de manière globale, que je crois que la première des choses, c'est effectivement la capacité de donner à chacun la possibilité de définir par soi-même ce qui est important et d'être capable de l'argumenter. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans beaucoup d'éléments qui sont mal compris. On parle, par exemple, beaucoup de gens pensent que le CO2, on peut l'effacer facilement. J'essaie de montrer tout à l'heure assez rapidement, c'est que non, on ne peut pas. Le CO2, il est là pour longtemps, on ne peut pas l'enlever. Et puis, il est émis par des gaz qui viennent pas de chez nous, parce que le CO2 est mélangé partout. Donc, il y a des tas de choses qui ne sont pas bien comprises aujourd'hui et qui font que la manière dont on génère des actions sont souvent des choses qui ne sont pas... qui sont pas en accord avec ces... je crois que le problème de la formation, le problème de l'enseignement est essentiel et doit toucher tout le monde. Quand on doit faire des cours pour les littéraires, hein, beaucoup. on peut faire facilement des cours pour les littéraires dans nos domaines si on le souhaite. Je n'étais pas très loin de faire ça, même si j'ai mis beaucoup de diagrammes ce soir. Donc je pense que ces enjeux-là sont vraiment essentiels.
Très bien. Il n'y a plus de questions directes. Je crois que j'ai fait un petit peu la synthèse de tout ce qui s'est dit et toutes les questions et problématiques qui ont été posées. Effectivement, moi j'ai l'impression, le sentiment que je tire de votre conférence, c'est qu'il y a des maillages. Certains sont très fins, d'autres sont beaucoup plus larges. C'est le local sans les murs, quoi. C'est vrai que quand Elon Musk va déverser 50 000 CubeSats pour couvrir l'espace, ça va créer des problèmes de pollution lumineuse, pas seulement pour les astronomes. C'est quelque chose qui interroge. Fabriquer un blue jean, on lui fait faire 10 000 km parce qu'il faut produire le coton quelque part, il faut ensuite le traiter ailleurs, Tout ça sont des problèmes qui échappent aux citoyens. Sauf qu'il peut effectivement décider de ne pas acheter ce type de blue jean etc. Mais donc, on voit bien que le maillage, il existe à tous les niveaux. À tous les
Si je peux
niveaux.
me permettre, je pense qu'effectivement, il y a le rôle des citoyens qui est important, mais je pense qu'on a un peu trop tendance en ce moment à tout renvoyer aux citoyens. Je pense que c'est une manière un petit peu facile quelquefois des États, des gouvernements. Il y a des besoins d'infrastructures. Vous parliez au début du fait d'avoir des transports en commun. Je suis d'accord que ce qui manque aujourd'hui, et je l'ai expérimenté dans beaucoup de voyages que j'ai fait récemment pour faire des exposés, il y a des endroits où quand j'étais jeune, il y avait des transports en commun, il n'y en a plus. Et donc les infrastructures que l'on n'a pas sont des infrastructures qui manquent beaucoup. Donc il n'y a pas que le citoyen, il y a aussi quelque chose qui peut se décider dans notre.
Bien sûr, l'obsolescence programmée est aussi un autre phénomène de néo-gaspillage, perte d'énergie, etc. On est d'accord. Bon, écoutez, merci encore, merci pour cette brillante conférence. Je pense que ça va éclaircir pas mal les esprits, nous permettre de réfléchir et puis de décider un peu dans quel champ d'action on peut chacun se placer,
Merci
tant au point de vue local
pour
que
cette
national.
invitation.
Voilà, à bientôt donc
À bientôt.
sur le mois prochain.
Merci.